9h06. Bonne journée à vous tous à l'écoute de France Inter. La grande matinale continue jusqu'à 10h. Au sommaire de cette partie magazine, je vous propose Charline Vanhoenacker tout à l'heure, qui va se mêler du budget communication du gouvernement. Daphné Burki et sa nouvelle tête, un jeune pianiste autodidacte super doué. Vers 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Vous avez entendu François Ruffin dire qu'il veut un puits du fou de gauche, un puits du fou de gauche, un spectacle pour contrer le récit qu'il estime réactionnaire du parc d'attractions vendéen. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Deux historiens s'opposent à mon micro tout à l'heure. Tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Vous connaissez son visage, son crâne chauve et son combat contre la loi Duplon l'été dernier au nom de tous les malades. Quand les députés ont voté la réintroduction de certains pesticides, elle s'est levée dans une assemblée nationale en surchauffe et a hurlé « Vous êtes les alliés du cancer ». Et elle a pointé son crâne dévasté par la chimiothérapie en martelant « Regardez-moi, regardez-moi ». Ensuite, 2 millions de personnes ont signé une pétition contre la loi. Et puis le Conseil constitutionnel l'a en partie censuré. Mais hier, le sénateur Duplon a déposé un nouveau texte de loi. Le combat va reprendre. Juste avant cela, honorons la promesse faite à une simple citoyenne qui s'est tout d'un coup mêlée de politique. Regardons-la. Demandons-nous ce qu'elle avait dans le cœur et dans le corps quand elle a hurlé tout ça. Portrait numéro 83. Bonjour Fleur Breteau.
Bonjour Sonia.
Ça repousse les cheveux?
Oui, ça repousse.
C'est, oui, c'est très joli. Cancer, colère, c'est ce livre qui paraît aux éditions du Seuil. Je le précise, vous n'êtes ni une militante professionnelle, ni une énarque, ni une élue. Vous êtes Madame Tout-le-Monde au Sénat. Vous connaissez le film de Frank Capra, Mr. Smith au Sénat, avec James Stewart? C'est vous?
Oui, bah oui, j'avais pas jamais pensé, oui.
Mais oui, peut-être. C'est vous. C'est Madame Tout-le-Monde fait irruption dans le champ politique. C'est ça l'histoire. Est-ce que c'est vrai qu'à 11 ans, vous aviez écrit une lettre à François Mitterrand?
Oui.
Ah, quand même, il y avait un petit antécédent.
Ça remonte à un bail quand même.
À un bail, vous avez 50 ans, mais vous lui avez demandé quoi, François Mitterrand, quand vous aviez 11 ans?
Pourquoi les footballeurs gagnaient autant quand ils marquaient un but, ouais, alors qu'il y avait des enfants qui mouraient de faim?
Ah, quand même, voilà. quand même, vous aviez un antécédent. Il y a d'abord eu un premier cancer, Fleur Breteau. Vous êtes la femme qui a hurlé devant les députés « Je suis à mon deuxième cancer ». Un premier cancer, les deux à 3 ans d'intervalle, c'est ça, un premier cancer du sein qui s'est traduit comment? Une chimio déjà?
Non, j'ai eu une chirurgie.
Oui, ça veut dire une ablation?
Partielle.
Partielle.
Donc c'est une tumorectomie, on appelle ça. Et après, j'ai eu 8 semaines de radiothérapie, ce qui a déclenché d'ailleurs ma ménopause. Donc pendant 6 mois, j'ai eu des symptômes, des effets secondaires extrêmement violents. Je ne dormais plus, j'étais malade tout le temps, c'était difficile.
3 ans après, vous sentiez une boule dans votre sein, vous avez pu la palper vous-même. Et puis, à l'annonce du diagnostic, c'est-à-dire une tumeur de 7,5 cm, c'est-à-dire un carcinome infiltrant de grade 2, qui va nécessiter une mastectomie, c'est-à-dire une ablation totale du sein, qu'est-ce que vous éprouvez?
De la peur, parce que là, on m'explique que c'est une tumeur au développement anormal. Et je me dis que si le cancer me revisite 3 ans après, qu'est-ce qui va se passer? Il s'avère qu'en plus, il avait métastasé dans les ganglions, qu'il pouvait y avoir des métastases dans mon corps. Et je me dis, mais c'est quoi mon avenir si le cancer me revisite 3 ans à peine après le premier? Et là, ça transforme l'idée qu'on a de l'avenir. C'est très bizarre et on se sent aussi une forme de défiance par rapport à son propre corps. Et il y a plein de choses qui s'écroulent, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il faut qu'on recalcule sa trajectoire, c'est-à-dire que tous les projets, toute sa routine, tout ce qu'on avait imaginé qui allait se passer, plus rien n'est possible, il faut tout revoir.
Surtout, vous écrivez dans ce livre, Fleur Breteau, que une question vous a soudain étreinte.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Ouais, exactement.
Pour mériter ça. Oui, qu'est-ce que j'ai
quelle
fait?
Quelle faute ai-je commise?
Quelle faute ai-je commise? Qu'est-ce qui a fait que j'ai provoqué ce cancer? Et ça ne m'a pas quittée. Et il faut savoir aussi, je me permets, Sonia, c'est que le jour du diagnostic de ce deuxième cancer, c'était un vendredi à 19h, 20h. Et quelques heures plus tard, un de mes plus proches amis mourait de son cancer. Mmh. Et cette synchronicité, elle était aussi assez violente. Mmh. Et j'ai aussi eu très peur de mourir, puisque tout à coup, bah, en fait, la mort s'était invitée dans cette idée du cancer, puisque Nicolas décédait après 2 ans de bataille. Et en fait, ce qui est... Donc oui, je me suis demandé ce que j'avais fait. Et je ne trouvais pas vraiment. En fait, oui, on peut toujours trouver.
En fait, c'est ça, politiser le cancer, c'est ça le combat dans lequel vous vous êtes lancé, Fleur Breteau, c'est dire haut et fort, petit 1, je ne suis pas seule, nous sommes des centaines de milliers à être malades et à être malades en même temps. Petit 2, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas à moi de porter la charge de la culpabilité, comme on dit dans un procès en justice.
Exactement, et en fait, cette pensée, elle s'est précisée à un moment. C'est-à-dire que c'était pas, je partais pas de moi, curieusement. C'est quand j'ai passé tout ce temps à l'hôpital, à l'Institut Gustave Roussy, qui est le cancer campus numéro 1 en Europe, où il y a des soignants extraordinaires, et c'est un campus de recherche et de traitement contre le cancer de pointe qui a sauvé des vies, qui sauve des vies tous les jours. Mais quand j'étais dans les salles d'attente et que je voyais les visages des personnes qui attendaient, et parfois, j'étais troublée parce que je voyais 2 personnes, dont une très jeune, et je me disais que c'était la personne plus âgée qui allait se lever pour le rendez-vous. Et non, en fait, c'était la personne plus jeune. Et c'est de voir que moi, j'étais pas la plus jeune des patients et des patientes. Il y avait beaucoup de gens trop jeunes qui étaient là. Donc, c'est ça aussi où je me suis dit, mais... il y a un problème, c'est-à-dire que des enfants, ils n'ont pas bu ou fumé. On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir fait assez de gym. Donc, et c'est ça aussi, c'est tous ces visages que j'ai croisés qui ont fait que je me suis dit, il y a des gens, le cancer, c'est évidemment pas de leur faute. Donc, je suis partie de là aussi pour politiser. Il buio ci trova vicini, un ristorante poi di corsa.
Lucio Battisti vous a tenu compagnie pendant la maladie.
Oui,
c'est ça, je me suis dit, vous êtes une révoltée, mais vous aimez quand même la variété italienne.
Mais évidemment.
Évidemment. vous avez choisi de raser vos cheveux avant le début de la chimio. De manière très étonnante, vous dites, je me suis sentie mieux les voir dans un sac poubelle. Allez hop, ça m'a rien fait du tout. Et c'est une partie de moi qui est partie avec. De la même manière que vous avez décidé de laisser partir un sein.
Oui.
Ce qui est un choix fort pour une femme. Hein.
Alors oui, sauf que j'avais pas trop le choix. C'est-à-dire que de toute façon, on allait me l'enlever. Mmh. La question, c'était de savoir si j'en mettais un qui n'était pas le mien, ou si je gardais la cicatrice. Et j'ai eu un sentiment... et toutes les options sont respectables. Enfin, mmh. C'est un choix très intime. Et j'ai fait le choix de n'avoir aucun corps étranger ou aucune suropération. C'était une évidence pour moi. Je me suis dit, c'est une cicatrice qui est là, qui fait partie de ma vie. Voilà, je ne pouvais pas cacher ce cancer. Je n'avais pas la force de cacher ce cancer.
Quel rapport avec cette baleine que vous êtes accrochée à l'oreille?
Oui.
Quel rapport?
C'est un cadeau de ma sœur, il y a longtemps. Quel rapport?
Vous êtes 3 sœurs, c'est
oui,
ça?
Oui, on est 3. Elles sont très importantes pour moi. Les baleines, elles vivent très très longtemps et oui. Les scientifiques les reconnaissent à leurs cicatrices sur leur corps. Quand elles ont été mordues par des orques, par des harpons humains, enfin des humains. Et voilà. Donc, Et je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'elle... moi, j'ai 50 balais, donc j'ai été marquée par la vie. C'est difficile de cacher les marques de la vie. Donc, moi, je me sens baleine.
Et c'est ce qu'on appelle un animal totem.
Voilà. Et en plus de ça, elles sont les gardiennes de l'océan. C'est-à-dire que leur présence signifie que les océans sont en bonne santé. Et quand elles disparaissent, c'est un signe que les océans sont en mauvaise santé, donc il y a quelque chose d'important.
Dans ce récit, cancer, colère, vous n'éludez aucun effet de la chimio. C'est ça, traverser un cancer. Hein. Évidemment, les cheveux, les poils, les sourcils, on sait, mais c'est aussi les odeurs insupportables, c'est aussi les trous de mémoire, c'est aussi les évanouissements, c'est aussi oublier ses clés dans le frigo, c'est aussi casser un verre chaque fois qu'on se sert à boire.
Oui, j'ai même oublié ma jupe en sortant de chez moi un jour. J'avais oublié de
Vous êtes sortie en culotte.
Non, je suis sortie en collant avec un manteau, heureusement pas trop court, mais c'est une fois dans la rue que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre.
C'est dire le niveau d'absence.
Oui, c'est des troubles cognitifs.
C'est ça.
Alors, chaque personne a des effets secondaires différents et les oncologues sont bien en peine de pouvoir les prédire pour chaque personne parce que c'est très particulier à une personne. Et c'est vrai que c'est quand on vit, c'est une grande fatigue aussi. Une fatigue qui est incompréhensible pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. C'est une fatigue qui vous colle. C'est l'impression qu'on est dans de la glu tout le temps. Et en plus de ça, on prend des médicaments à haute dose, des médicaments aux effets contradictoires. Donc des médicaments qui épuisent le corps et des médicaments, des corticoïdes qui l'excitent au plus haut point pour supporter les effets allergènes de la chimio. Donc notre corps devient aussi une espèce de... ne comprend pas, puisqu'il est à la fois très fatigué et à la fois dans une espèce de surexcitation bizarre. Donc il faut supporter ça. Ouais, c'est un drôle de machin.
L'Assemblée nationale, vous étiez dans les tribunes, l'Assemblée nationale au mois de juillet.
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi par scrutin public. Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votants 564, exprimés 539, majorité 270, pour 316 contre 223. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi.
Vous vous levez, vous hurlez.
Oui.
Je voudrais comprendre qu'est-ce qui vous submerge à ce moment-là. C'était pas prévu, c'était pas écrit.
Non, c'était pas prévu.
C'était pas scénarisé.
Pas du tout. Ça faisait une heure et demie que j'entendais des gens donner des fausses informations, ne pas être contredits, que personne ne leur demande leur source, mentir. Et à un moment donné, ça m'a submergée parce que je savais que réintroduire un néonicotinoïde dont tous les spécialistes disent qu'il est hautement toxique pour la santé humaine, c'était appuyé sur un détonateur de la maladie. Ça allait générer des centaines et des milliers de malades. Et je ne comprenais pas comment des parlementaires du centre, des droites et de l'extrême droite, pouvaient s'allier pour voter un texte, pour favoriser des industriels de l'agriculture au détriment de la
santé.
Mais
moi, ce que je veux comprendre, c'est que vous avez intitulé votre mouvement « Cancer, colère ». Vous avez intitulé ce livre « Cancer, colère ». Moi, je voudrais que vous me parliez de cette colère.
Elle m'a submergée. C'est quand on est face à des gens qui sont des représentants de la population.
Mais c'est le cancer qui met en colère. Tous les malades du cancer sont en colère. Maintenant que vous en fréquentez beaucoup, que vous parlez entre vous.
Il y a une impuissance. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont malades ou dont les enfants sont malades et qui sentent une impuissance terrible face à la maladie. Parce qu'ils voient que le cancer se répand autour d'eux. Et cette impuissance, elle donne une colère qui n'est pas bonne. Parce qu'on se sent seul dans son impuissance. Et cancer-colère, c'est l'inverse. C'est se dire, on met nos colères, on les réunit. Et moi, ma présence à l'Assemblée nationale, j'étais pas seule. J'étais avec d'autres personnes. Et ça me donnait de la puissance. Je me sentais moins seule au fait de commencer à mener une lutte. C'était tout
récent.
Parce
que c'est ça, c'est-à-dire une fois que l'opération a eu lieu, que le sein est enlevé, que la cicatrice est faite, que la chimio est finie, que la radiothérapie est finie, il reste la colère.
La colère, elle a été déclenchée par deux choses. Quand j'ai appris que les fabricants de pesticides fabriquent aussi des traitements contre le cancer. Et la deuxième information, c'était d'apprendre que le cancer était qualifié d'épidémie par les scientifiques, puisqu'il augmente dans toutes les catégories de la population. Donc tout le monde est concerné. Et que les causes environnementales sont importante aujourd'hui dans l'épidémie de cancer, puisque le nombre de malades du cancer a doublé depuis 1990 et que les causes environnementales représentent vraisemblablement 50% des cancers aujourd'hui. Sachant qu'on peut être exposé à être malade des dizaines d'années plus tard. Je me suis dit, globalement, un malade sur deux n'aurait pas dû tomber malade. Donc le cancer a des causes politiques, puisqu'on a besoin que les élus de la République nous protègent de la violence chimique. Ça ne va pas éradiquer le cancer de la surface de la planète, mais ça va le diminuer, ça va l'endiguer. On ne va pas pouvoir régler l'épidémie de cancer si on vote des lois
et vous dites,
qui favorisent les pesticides.
Compactée depuis des mois au fond de mon ventre, ma colère se déploie comme la voile d'un bateau. La promesse de guérir le cancer n'est pas suffisante pour moi. Elle n'est pas suffisante et même elle est dangereuse. Elle laisse supposer que le cancer devient une maladie comme les autres.
Que comme le cancer, c'était quelque chose de normal dans la vie humaine. C'est-à-dire en fait, c'est normal. Maintenant, il y a une recherche, une science qui est à la pointe et que si on tombe malade, on va guérir. Or, c'est faux. Déjà, le cancer, ça abîme la vie. Ça abîme, on donne des années de sa vie à un cancer, c'est difficile. Il y a des gens qui n'ont même pas 40 ans et qui ont des chimios à vie. Moi, je vais donner 10 ans de ma vie au cancer, puisque j'ai des années d'hormonothérapie derrière.
Devant vous.
C'est pas du tout anodin. Et que, évidemment, merci à la recherche, merci aux chercheurs, merci aux scientifiques de nous soigner. Mais nous, on veut s'attaquer aux causes de la maladie. Il y a des causes industrielles à la maladie. Donc nous, on veut les diminuer, ces causes. Et c'est pour ça qu'on estime que le cancer est politique. Ce sont des décisions politiques qui vont nous protéger. Or là, il y a le gouvernement et une partie des parlementaires qui piétinent la santé publique. Donc oui, la colère, elle est là. La colère, elle est là parce que les gens qui devraient nous protéger aggravent la situation. Donc oui, elle est là, la colère, mais vous savez quoi ? C'est un astre brillant, cette colère. Parce qu'on n'est pas en colère tout seul dans son coin. À se bouffer. Il y a des gens qui nous ont écrit à Cancer Colère et qui nous ont dit « Mon sentiment d'impuissance, ma colère, elle me fait autant de mal que mes métastases. » Et que Cancer Colère existe.
Ça te transforme ?
Ça transforme. Je ne me sens plus seule. Ça me donne du souffle. Je retrouve le pouvoir sur ma maladie et sur ma colère. Ma parole vaut autant que les autres. Et je veux que la parole des malades existe dans le débat public.
Alors écoutez Laurent Duplomb, au mois d'août, juste après la censure par le Conseil constitutionnel d'une partie de cette loi qui avait été votée au mois de juillet, je précise que l'EFSA, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
L'autorisation de la molécule acétamipride n'est pas liée à une autorisation française. Elle est faite par l'EFSA. L'EFSA, aujourd'hui, autorise l'acétamipride parce qu'elle estime que lorsqu'elle est utilisée dans les préconisations, elle n'est ni dangereuse pour l'homme, ni dangereuse pour la biodiversité, ni dangereuse pour l'environnement.
Hier soir, nouvelle proposition de loi, à nouveau le sénateur Duplomb. L'idée donc est de réécrire le texte en tenant compte de la censure partielle du Conseil constitutionnel pour réintroduire les pesticides interdits en les utilisant de manière différente, en limitant leur utilisation. Ça n'est pas la seule échéance, parce que donc ce texte va revenir très vite au vote. Puisqu'il y a eu une pétition avec plus de 2 millions de signatures sur la loi de Duplomb, on va rouvrir le débat à l'Assemblée nationale le 11 février. On ne reviendra pas sur la loi, mais au moins il y aura un débat public.
Oui.
Vous en serez.
On sera le plus près possible de l'Assemblée nationale et on va chanter, les malades du cancer vont venir chanter, puisque pour soutenir la pétition signée par des millions de Françaises et de Français, on ne veut pas laisser cette pétition flotter toute seule à l'Assemblée nationale et on n'attend rien de ce débat.
Vous n'attendez rien de ce débat ?
Non. On n'attend rien, on sait qu'il y a une fabrique de l'ignorance qui est organisée. Et là, vous passez les mots du sénateur Laurent Duplomb qui ment. L'EFSA a divisé par 5 les seuils autorisés de l'acétamipride à la demande de l'Italie, puisqu'effectivement, c'est un produit extrêmement toxique pour la santé humaine. Donc, c'est un premier mensonge. Et par ailleurs, l'ANSES avait le pouvoir d'interdire l'acétamipride aussi. Mais l'ANSES, depuis, a été mis sous tutelle du ministère de l'Agriculture et a perdu son indépendance. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de garde-fous sanitaires, plus de protection entre les industriels qui utilisent les pesticides et la population au ministère de l'Agriculture. Donc oui, on peut comprendre la colère des malades, puisqu'on ne veut pas répandre la maladie. On ne veut pas que les gens tombent malades. Donc c'est important que ces lois agricoles qui sont passées à la demande de cadre supérieur de la FNSEA ou d'industriels de l'agriculture qui, en même temps, qui détruisent le monde paysan.
Pour sauver le monde paysan, disent-ils. Ils pour sauver le monde
ils
paysan.
Ils sauvent, ils protègent les profits
puisqu'il y a des filières entières.
Ils protègent les profits des industriels.
Qui en souffrent, voilà. aujourd'hui menacés.
Mais les agriculteurs indépendants, personne ne s'occupe d'eux. Ils ont un problème de revenus, personne ne s'occupe de leurs revenus. Donc non, ces lois, elles sont passées pour favoriser des industriels de l'agriculture qui empoisonnent les sols et l'eau. Okay, pour vendre, pour maximiser leur rendement et vendre leur production à l'international et faire de la spéculation sur l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, la nourriture est devenue une marchandise sur laquelle on spécule. Ce sont les agriculteurs et les éleveurs indépendants qui nourrissent les Français. Ce ne sont pas les industriels de l'agriculture. Et c'est eux qui font voter des lois qui nous empoisonnent. Donc c'est un vrai problème. C'est un problème de santé publique. Et nous, on veut retrouver une sérénité alimentaire.
Eh ben, quand je vous disais que Madame Tout-le-Monde vient de faire irruption en politique,
ouais,
vous n'avez pas
prévu.
Bien vous tenir. Flore, ben, c'était pas prévu d'avoir de cancer d'affilée.
C'est vrai.
Flore Bretot, cancer colère, ça paraît au seuil. Merci d'avoir accepté
Merci
l'invitation
beaucoup.
De France Inter. Vous restez avec nous dans un instant, le débat. Il est 9h29, vous écoutez France Inter, nous sommes ensemble jusqu'à 10h parce que c'est le magazine de la grande matinale. Magazine à 9h45 avec Charline Vanhoenacker tout à l'heure.
Bonjour la France Inter, l'État a dépensé 1 milliard en campagne de communication l'an dernier, en sondage, en goodies. Moi j'ai pas vu passer le pins armé de terre, je suis dégoûtée, mais le cornu va tailler dans tout ça et cette année on aura un sticker. Voilà.
Et où va aller l'argent? Bonne question. Ensuite, il y aura Daphné Burki. Elle arrive avec sa nouvelle tête, un jeune pianiste autodidacte, très doué, vous allez voir. Bon, cette fois, il est 9h30. Et à 9h30 sur France Inter, c'est l'heure du débat du jour.
Je veux qu'on ait notre récit qui traite de l'esclavage, qui traite de nos pages sombres et de nos pages de lumière. Et je pense qu'on doit porter l'idée qu'on doit avoir un puits du fou de gauche. Bon, allez, je balance la formule comme ça.
Un puits du fou de gauche, voilà la proposition polémique faite par François Ruffin, qui sera candidat à la présidentielle. Le puits du fou, c'est donc un parc d'attractions fondé par Philippe de Villiers il y a une quarantaine d'années, qu'on accuse régulièrement de livrer au public une vision partisane et réactionnaire de l'histoire.
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Alors faut-il, oui ou non, un Puy du Fou de gauche? J'en débat ce matin avec Arnaud Fossier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien médiéviste, c'est-à-dire spécialiste du Moyen-Âge, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et auteur de Cathare, ennemi de l'intérieur, un livre qui est paru aux éditions La Fabrique. Face à vous, Mathilde Larère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse en histoire à l'université Gustave Eiffel. Vous êtes spécialiste de l'histoire des mouvements sociaux et co-autrice du livre Le Puy du Faux, hein, F-A-U-X, aux éditions Les Arènes. Arnaud Fossier, on commence avec vous. En septembre, vous faisiez paraître une tribune dans Le Monde intitulée « À quand un Puy du Fou ?» De gauche. Alors manifestement, François Ruffin a repris votre idée, c'est ça ? Vous en êtes réjoui ?
Oui, je m'en suis réjoui, mais il l'a sans doute reprise sans le savoir. En tout cas, on n'est pas en contact.
D'accord.
Il ne m'a pas contacté.
D'accord.
Mais oui.
Donc vous ne faites pas partie de son staff, hein, on va le préciser.
Non, voilà, voilà. C'est ça, exactement. Mais néanmoins, j'étais content effectivement qu'il reprenne cette formule un petit peu provocatrice. Et peut-être un mot du contexte dans lequel j'ai écrit cette tribune. En fait, c'est un moment où la bataille culturelle s'est particulièrement intensifiée, durcie, notamment parce que, eh bien, au-delà du Puy du Fou, d'autres personnes, en l'occurrence Pierre-Édouard Sterrin, donc un milliardaire bien connu, dont les idées sont à l'extrême droite, il l'assume très clairement, lui aussi a décidé de s'impliquer...
Une droite identitaire catholique.
Voilà, exactement, et d'investir beaucoup d'argent dans la création de spectacles historiques. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est curieux, on n'a pas vraiment l'équivalent à gauche, et donc ce serait bien de lancer un appel à toutes les bonnes volontés, et notamment à toutes les bonnes volontés historiennes, c'est-à-dire aux historiens et aux historiennes de métier.
Vous en appelez aux mécènes aussi, parce qu'il faut des gros budgets.
Effectivement, oui, il n'y a pas de création de spectacle sans argent.
Sans argent, mais sur quoi vous vous appuyez pour affirmer que le Puy du Fou propose des spectacles de droite, en tout cas que c'est une vision de l'histoire marquée à droite, parce que la famille de Villiers s'en défend, prétend proposer un récit universel.
Oui, encore la semaine dernière, j'ai entendu l'un des enfants de Villiers défendre cette vision-là. Mais sur quoi je m'appuie ? Sur l'excellent livre coécrit par Mathilde Larère, Le Puy du Faux, qui de fait explique très bien à quel point ça n'est pas qu'une question, ça n'est pas une mise en scène neutre d'histoire ou d'épisode ou d'historiette qui n'aurait aucun message politique. En réalité, ce qui se cache derrière, c'est un récit, ou ce qui se cache ou ce qui s'assume, hein, d'ailleurs, c'est un récit effectivement.
Mathilde Larère, pour vous, ça va même plus loin qu'un récit orienté. Vous parlez carrément de désinformation.
Oui, alors déjà, en plus, ils le disent lui-même, hein, c'est Philippe de Villiers qui, alors qu'il renonçait à la présidentielle en 2017, hein, disait qu'il avait fait passer plus d'idées par son Puy du Fou et ses livres qu'en étant, disait-il, la dernière écrevisse de la bassine.
Ouais, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, une élection présidentielle, un spectacle, un livre, et tout ça sert à faire passer des idées.
Oui.
En soi, il n'y a rien de mal à faire passer des idées.
Vous disiez que le Puy du Fou réagit en disant c'est du divertissement, etc. Non, ils assument que c'est pas du divertissement. Donc en fait, il n'y a pas que nous qui le disons, hein, que c'est des idées de droite qui passent par le Puy du Fou. Et oui, effectivement, c'est une désinformation. C'est ça sur quoi, je voudrais insister, le Puy du Fou, c'est pas le problème que ce soit une histoire de droite. Le problème, c'est que c'est pas de l'histoire. Mmh. C'est une désinformation de l'histoire, c'est pas de l'histoire sérieuse, c'est une instrumentalisation du passé au service d'idées de droite. Ce qui n'est pas la même chose qu'une histoire de droite.
Exemple. Qu'est-ce qui fait que dans les spectacles du Puy du Fou, vous voyez une instrumentalisation de l'histoire au service d'un discours de droite ?
Réécriture complète du passé, faire comme si la France était toujours là. Ça, c'est une expression de Suzanne Citron qui montre que ça, c'est ce qu'on appelle le roman national. Alors que la France, elle n'est pas là au moment des Gaulois. Il n'y a pas de France non plus au baptême de Clovis. Voir dans la religion catholique un ciment unique en invisibilisant toutes les autres religions de l'identité française, avoir un discours qui est très clairement en faveur de la monarchie, en faveur des hiérarchies nobilières, en faveur de l'Église catholique, je le redis, une vision très xénophobe, l'ennemi est toujours...
C'est intéressant parce que vous n'êtes pas du tout pour un Puy du Fou de gauche. Ça ne vous donne pas envie de construire un spectacle qui serait un contre-récit à ce Puy du Fou qui est un énorme succès. Je le précise, 3 millions de visiteurs l'année dernière.
En fait... Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait des spectacles historiques qui qui présente, non pas construire un récit, mais qui présente une histoire intéressante, qui s'appuie sur des sources, sur leur analyse, qui donne au public, et qui d'ailleurs fasse confiance au public, respecte le public en le faisant réfléchir sur le passé. Il y a vraiment moyen de le faire. Ça, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Ce qui ne me plaît pas, c'est l'expression « puits du fou » de gauche. Parce que le puits du fou, c'est pas simplement un spectacle historique, c'est une désinformation, c'est une désinformation consciente, parce que ça a été dit plein de fois à De Villiers, aux autres, que ça allait pas, ce qu'ils racontaient. Ils ne changent pas, donc ils savent très bien que ce qu'ils racontent sur la Révolution française, c'est un discours complètement contre-révolutionnaire. Ils veulent faire ça. Or, il ne faut pas qu'à gauche, nous fassions la même chose.
Ça veut dire reprendre la stratégie de l'adversaire, c'est ça ?
C'est ça, l'historien, l'historienne, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse comprendre le passé aux gens qui nous écoutent, on les fasse réfléchir sur le passé. C'est ça, et il y a moyen de le faire. En fait, les historiens, les historiennes, les agents et agentes du patrimoine font un travail considérable de médiation
Fossier.
Historique.
C'est intéressant parce que vous dites, il n'y a jamais de neutralité. En histoire, l'histoire, elle est toujours subjective, c'est toujours un point de vue.
Bien sûr. Alors, si je puis me permettre de rebondir aussi sur ce que vient de dire Mathilde, l'un des grands problèmes, peut-être le problème à la racine du Puy du Fou, c'est que les spectacles ne sont pas écrits par des historiens et des historiennes. Philippe de Villiers lui-même revendique le fait d'avoir écrit, scénarisé ou coécrit un certain nombre de spectacles. Donc déjà, ça, c'est un premier point. C'est pour ça qu'un Puy du Fou de gauche, l'expression, évidemment, est discutable.
Bah, défendez-la, hein.
Oui, oui, non, mais il s'agirait évidemment pas de désinformer, mais il s'agirait au contraire de proposer la mise en scène de faits historiques, mais pas simplement de faits. J'en viens à votre question sur la part de subjectivité, ou plus exactement la part d'interprétation qu'il peut y avoir en histoire. Moi, je pense qu'on gagnerait à créer un parc ou un spectacle, effectivement, où on puisse mettre en scène aussi des divergences d'interprétation et d'hypothèses sur certains faits qui ont été établis.
Mais ça s'appelle plus du divertissement, ça s'appelle plus du spectacle.
Non,
mais
non.
Si. Ça s'appelle plus mettre les parents et les enfants.
Si. Je pense que si. On peut regarder
Bien sûr.
Au cinéma, par exemple. Il y a plein de films où on raconte la même histoire avec des points de vue différents. C'est ça, on pourrait tout à fait envisager quelque chose où... Par ailleurs, enfin, on pourrait aussi mettre en scène les controverses entre historiens, mais j'avoue, c'est un peu plus austère. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est sur un épisode ou sur un événement historique, on peut très bien faire varier les points de vue et montrer à quel point la réalité historique est complexe et non pas monolithique et univoque.
Pourquoi ça marche, Mathilde Larrère ? Pourquoi ça marche, le Puy du Fou ? Parce que c'est un énorme succès.
Mais parce que, avec l'argent qu'il y a dedans...
Et comme dit François Ruffin... Il y a plein de gens de gauche qui y vont et qui passent une super soirée.
Mais oui, mais parce que, toute la pyrotechnie, toutes les cascades, tous les décors, c'est de très bonne qualité. Avec le fric qu'il y a dedans, c'est de très bonne qualité. Mais vous savez, en histoire,
c'est qu'une histoire de fric.
Bah ça, évidemment, ça joue quand même. Enfin, c'est plus facile quand on a un spectacle qui doit coûter des millions de faire un truc de très bonne qualité. Donc oui, ça marche. Mais regardez, par exemple,
où est-ce que
documentaire...
le roman national, en réalité, c'est pas aussi profondément dans l'air du temps ? Ça rencontre une aspiration
c'est
populaire ?
C'est dans l'air du temps parce qu'on le fait dans l'air du temps. Et là, il y a d'ailleurs une responsabilité générale médiatique et par ailleurs du service public. C'est-à-dire que, maître Berne omniprésent, ça aide pas à lutter contre le roman national. Supprimer l'émission de Patrick Boucheron, ça aide pas à lutter contre le roman national. Faire commenter le Tour de France par Ferrand, ça aide pas à lutter contre le roman
national.
Vous êtes
quand même de mauvaise foi, parce que pour le coup, sur France Télévisions, et j'en regarde énormément, il y a énormément de documentaires d'histoire et des documentaires d'histoire de très grande qualité qui reprennent pas du tout le discours
d'accord.
de Stéphane Bern, et donc il y a un service public qui est quand même pluraliste sur les points de vue en histoire.
Le documentaire de Jérémy Foy sur la Saint-Barthélemy, qui a été un succès, qui est absolument excellent. Il est très divertissant, les gens ont beaucoup aimé, et pourtant, il rend compte de plusieurs points de vue, il est inclusif. Prenez par exemple Marignan 2015, qui est un spectacle qui a été financé, alors pas par un mécène, mais par l'argent public. 500 000 euros pour le spectacle. Il a été confié à un spécialiste de la Renaissance qui s'appelle Patrick Briouas. Matisse. Il a fait, on lui dit, voilà, il faut faire le 500 ans de Marignan. Il fait un spectacle, en fait, sur la façon dont François Ier a rejoué la bataille de Marignan en 1518. Il a fait un travail extraordinaire pour reconstituer les costumes, la musique, parce que c'est un spécialiste
de ça.
Je vous
entends.
C'est génial ce qu'il a fait.
Alors, moi, je voudrais savoir, Arnaud Fossier, à quoi ça ressemble un Puy du Fou de gauche? Un spectacle de gauche. Racontez-nous à quoi ça ressemble.
Exactement là où je voulais en venir. Voilà, et ça va renvoyer aussi à votre question sur la neutralité. Moi, je pense qu'il faut aller sur, pour gagner cette bataille culturelle, il faut aller sur le terrain de l'extrême droite. C'est pour ça que je propose de reprendre le même type d'outils.
Voilà, ça en fait grincer des dents chez Mathilde Larrère.
En l'occurrence, parce que documentaires, ils sont très bien faits et ça marche très bien. Mais je pense qu'il faut aussi se ressaisir non seulement de ce genre d'outils, mais aussi du cadre dans lequel l'extrême droite se sent à l'aise. En l'occurrence, c'est celui de la nation. Il y a plein d'autres histoires à raconter, mais je pense que dans ce cadre de la nation, il y a justement moyen d'insister sur d'autres épisodes et sur d'autres événements historiques et sur d'autres figures. Moi, je suis pour qu'on en finisse avec l'histoire des grands hommes, je suis pour qu'on en finisse avec l'histoire militaire, je suis pour qu'on insiste davantage sur l'histoire des invisibles, des opprimés, des minorités, des luttes, des résistances au pouvoir, autant de choses qui ne sont pas...
Et je vous pose aussi une question qui fâche, la désinformation en histoire, elle n'est pas que l'apanage de la droite. La gauche a longtemps fermé les yeux aussi, et les historiens de gauche sur les crimes du stalinisme, sur les crimes du maoïsme. Enfin, la gauche a aussi son droit d'inventaire à faire
Mais on la critique de la même façon.
Oui, absolument.
De même qu'un historien de droite, je veux dire un historien sérieux. Moi, je lis des historiens de droite, j'utilise des travaux d'historiens de droite dans mes cours. Et un historien de droite est tout aussi critique du Puy du Fou et de la désinformation.
Mais par exemple, prenez le château de Chambord. Vous savez qu'il y a eu un grand projet de faire un contre-Puy du Fou au château de Chambord.
Alors, il ne le disait pas du tout comme
Alors,
ça, Patrick
juste,
Boucheron.
J'explique. Patrick Boucheron et un metteur en scène qui s'appelle Mohamed El-Khatib, qui voulait organiser un grand spectacle historique. Le directeur du lieu a mis fin à ce projet en disant, je le cite, que le château de Chambord n'avait pas à faire de l'histoire militante ni hémiplégique, c'est-à-dire qu'il ne voit qu'un côté.
Oui, mais c'est lui qui voit ça comme ça. C'est-à-dire que jamais Patrick Boucheron ni Mohamed El-Khatib présentaient ça comme cela. C'est-à-dire que c'est une interprétation de leur projet. Leur projet, c'était pas ça. C'était de faire exactement ce que vient de dire Arnaud Fossier, c'est-à-dire un spectacle plus inclusif, qui laisse plus de place. Ça veut pas dire transformer, désinformer et instrumentaliser l'histoire. C'est pour ça que je suis pas complètement d'accord. Si on fait ce que dit
Arnaud... Vous n'êtes pas d'accord avec Arnaud
Fossier. Je suis d'accord et pas d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit, il faut, quand il dit je veux faire, voilà, en fait, un spectacle d'histoire populaire, et qui soit d'ailleurs national. Mais c'est ce que fait par exemple Laurence de Kock. Alors, c'est pas un spectacle, mais son livre, L'histoire populaire de la France, on en ferait un spectacle, ça serait un spectacle d'histoire populaire de la France. Et mais en fait, ce n'est pas se mettre sur le même terrain. Parce que se mettre sur le même terrain, pour moi, c'est parce qu'on n'est juste pas d'accord sur le terme. Pour moi, le Puy du Fou, c'est le roman national. Donc c'est les grands hommes, donc c'est...
Donc c'est une instrumentalisation de l'histoire.
À partir du moment où...
Ce que vous réfutez, mais vraiment pied à pied.
Bien sûr, mais parce que... Mais qu'elle soit, et je vous l'avais dit, je suis d'accord, qu'elle soit de droite ou de gauche, en fait, l'histoire n'a pas à être instrumentalisée, le passé n'a pas à être...
Conclusion, Arnaud Fossier.
Juste un mot sur ce que, moi, j'entendais à l'origine par de gauche, parce que je sais que c'est un peu ça, effectivement, qui a créé quelques remous et qui laisse croire à une instrumentalisation et une forme de travestissement de la vérité historique. Évidemment, non, pas du tout. Je dis simplement qu'on peut faire de l'histoire et raconter une histoire vraie, fondée sur des sources et sur l'interprétation des sources, tout en étant porteur d'idéaux, de valeurs et de combats de gauche. C'est tout simplement ça. Et on peut l'assumer, on peut assumer d'être des historiens et des historiennes marqué à gauche. Et ça n'est pas grave, ça ne veut pas dire que notre travail est faux ou erroné
si
pour autant.
François Ruffin est élu président de la République. Je vous réinvite tous les deux et on en rediscute parce que le Puy du Fou de gauche verra le jour. Mathilde Larrère, Arnaud Fossier, merci d'avoir débattu cette question passionnante au micro de France Inter. Et là, on écoute les Arctic Monkeys avant de rejoindre Charline Van Honecker.
Popular slogan and a bucket of pain. Supercomputer on a jolly crusade.
massaging your forearm, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain, trying not to wake up sleeping dogs just because you're alone, little hall of famer.
Opening Night, c'est un nouveau single des Arctic Monkeys, figurez-vous, ça n'est pas un nouvel album, c'est une chanson enregistrée au bénéfice d'une ONG qui lutte pour le droit et la santé des enfants. Peut-être un nouvel album plus tard. Allez, il est 9h47, vous passez une excellente matinée sur France Inter, moi aussi.
Moi pour aussi
le... Pour le dessert, il y a Charline, il y a Daphné Burki, la nouvelle tête de Daphné Burki qui va arriver dans un instant. Charline Vanhoenacker,
oui.
D'abord, l'État consacre 1 milliard d'euros pour sa communication, selon le Figaro. Le Premier ministre va s'employer à tailler dans la communication publique.
Elle a été sous-estimée d'environ 500 millions d'euros l'an dernier.
Oh.
C'est-à-dire que le Figaro parle d'un tâtonnement au demi-milliard près, je
c'est
cite.
Ça, c'est beaucoup.
Au gouvernement, ils sont tellement convaincus que les Français sont des débiles que dès qu'il faut leur expliquer quelque chose, ils dépensent des centaines de millions en communication. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Donc après, ils passent sur tous les plateaux pour dire qu'ils n'ont pas été compris parce que les Français sont des débiles. Résultat, ils doivent reclaquer des millions en communication pour expliquer qu'ils n'ont jamais dit que les Français étaient débiles. Ça vous suivez, Sonia hein?
Ouais, je suis.
Bon, pourtant, le Premier ministre, la seule chose qu'il communique depuis le début, c'est qu'il va faire des économies. Le cornu, c'est l'homme de la sobriété, le moine soldat. Les ministres, ils vont finir à la télé en robe de bure. Mais alors, le budget com, par où ça déborde? Vous vous posez la question, Sonia?
Ouais.
Ah, heureusement, parce que sinon la chronique s'arrêtait là. Alors, je vous passe les 22 millions pour les sondages entre 2017 et 2022, parce que là, on est blasé. Le contrat de location de panneaux publicitaires physiques ou numériques, 428 millions d'euros entre 2003 et 2026.
D'accord.
Mais à ce prix-là, c'est plus un mandat, c'est une opération marketing. Vous vous rappelez de celle sur la sobriété énergétique? Ah, ben voilà,
non.
Le type qui a trouvé le slogan « Je baisse, j'éteins, je décale », il aurait pu ajouter « J'encaisse », vu ce qu'il a dû toucher en bossant chez Havas ou Publicis. Alors, il nous a répondu une production hollywoodienne pour nous rappeler d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Et Macron, on se demande si c'est la confiance des Français qui cherchent à gagner ou un Golden Globe. Alors, en 2020, la campagne pour les gestes barrières a coûté 1,2 million d'euros pour qu'on pense à bien se laver les mains après avoir éternué.
Ben oui, mais...
ben oui, la vie,
c'est
bien,
oui. Important.
1 milliard, c'est 300 millions de plus que le budget de fonctionnement de Radio France. Hein, c'est ça, c'est 700 millions, nous. Ben voilà, je suis sûre que le gouvernement peut être plus économe sur sa com. Regardez l'Assemblée avec la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Ben, pour faire parler d'eux, ils ne commandent pas des affiches ou des goodies. Ils utilisent des extraits isolés de mes chroniques pour se faire de la pub.
C'est mal, hein.
Dans le milliard dépensé, il y a aussi une tonne de goodies de l'armée pour distribuer aux jeunes. Il y a une toupie marine nationale, un pins armé de terre. Voilà, si vous vous blessez en l'épinglant, évitez de vous engager. Et la PHP aussi, l'année dernière, le Canard Enchaîné avait révélé que les hôpitaux publics de Paris avaient commandé pour près d'un million de gadgets, des mugs ou des stickers sur 3 ans, dont 450 porte-clés support de jetons pour caddie. À l'hôpital public, on n'a plus de pansement, mais on va vous mettre un petit sticker. Et après, pour votre transfusion, on n'a plus de cathéter, mais vous inquiétez pas, j'ai un stylo aux 4 couleurs siglé à PHP, on va se débrouiller. Non, désolé, on n'a plus de lit pour votre opération, mais vous n'avez pas du tout perdu, car je vous offre ce magnifique porte-clés. Alors, on dit merci qui ?
Bah, merci
2500 balles anti-stress pour les malades, et nous on est là à se plaindre que rien n'est fait pour les hôpitaux, quelle bande d'ingrats. L'État qui gaspille de l'argent, pardon, j'ai l'impression de faire une imitation de Dominique Cieux, achevez-moi, voilà, achevez-moi.
Charline Van Honecker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Il est 9h50, nous sommes dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Aziz Hamedi, il est pianiste. Et des milliers de personnes l'ont découvert ces derniers mois grâce à la viralité de ses vidéos. Son histoire, elle commence franchement comme un film. Un coup de foudre dans une gare à Grenoble. Aziz aperçoit un piano en libre accès, il s'approche, il s'assoit, il pose ses mains et il se met à jouer. Depuis, ils vivent leur passion aux yeux de tous, au milieu des voyageurs. Pourtant, rien n'était écrit. Aziz Hamedi, il n'avait jamais fait de solfège. Il touche son premier piano à 18 ans en dépensant tout son passe culture pour s'offrir un clavier. Mais il a une oreille incroyable. À 19 ans, sans savoir lire une partition, il joue des grands classiques. Et puis surtout, il improvise, il invente des mélodies qui attrapent les passants en plein trajet et qui cumulent des milliers de vues en ligne. Bonjour Aziz Hamedi, bienvenue sur France Inter.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Comment ça va ce matin ?
Ça va et vous ?
Il y a une petite émotion parce que vous m'avez dit que c'est la première fois que vous débarquez à Paris. Vous avez pris le train en ayant accepté notre invitation.
Première fois que je sors de ma ville, carrément, presque. Non, c'est fou.
L'histoire, elle est folle, elle a basculé depuis quelques jours, en fait.
Une semaine, vendredi dernier, en une semaine, tout, c'est un truc de fou.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, j'ai fait du coup ma première interview, et ensuite, je me lève le matin, vendredi matin, et là, je vois 99 notifications, genre le téléphone, il n'a pas assumé plus de notifications qu'il pouvait. Je regarde et tout, je vois 99 notifications, des messages de partout et tout, je comprends pas. Là, la première chose que je fais, c'est quoi ? Je me lève, je mets mon téléphone en mode avion, et je vais faire une mélodie pour exprimer ce que je ressentais à ce moment-là.
Ah oui, on va raconter l'histoire. Est-ce que c'est vrai qu'elle est complètement folle ? Est-ce que vous vous souvenez juste de la toute première fois où vous avez posé les mains sur ce piano de la gare de Grenoble ?
La première fois, c'était avec mon meilleur ami. On allait à la gare de Grenoble, comme ça. On marche. Et je ne savais pas en fait qu'il y avait un piano à cette gare. Je vois, il y a un piano. Là, je m'assois. Et là, je commence à jouer, etc. C'était encore le début. Ça faisait quelques semaines que je commençais à jouer. Mais je voyais déjà des passants qui s'arrêtaient. Et là, je me suis dit, ok, déjà aussi, il faut que je continue. Parce que, en fait, ça motive, les passants, ça motive. Les gens à la gare et tout.
Incroyable. Je précise aux auditeurs qui nous écoutent, votre film préféré, c'est Matrix. Et dans ce film, le héros, il découvre que le monde dans lequel il vit n'est peut-être pas la vraie réalité, mais une sorte de décor. Et que sa vraie vie l'attend peut-être ailleurs, dans un autre niveau d'existence. Vous, en une année à peine, vous êtes passé d'un jeune qui n'a jamais touché un piano à un musicien qui joue des classiques, qui touche des foules dans une gare. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que parfois, vous avez l'impression que ce piano, il vous attendait quelque part, comme si vous aviez retrouvé une vue de musicien qui était peut-être là depuis toujours, mais qui était cachée, cette vie-là.
Quand j'ai regardé Matrix, je ne faisais pas de piano à ce moment-là. Je me suis dit, je veux être comme lui. Enfin, je sens qu'il va se passer quelque chose dans ma vie comme lui, en fait. Bah, déjà, c'était mon film préféré avant le piano, etc. Et là, en me rendant compte de ce qui se passe dans ma vie, Matrix, il y a un rapprochement, en fait. C'est ça que je trouve qui est incroyable.
Il y a des vidéos de vous en train de jouer du piano, donc sur ces réseaux sociaux, on aperçoit les voyageurs. Et dans cette gare, bah, les gens, à la base, ils ne viennent pas pour vous voir, Aziz. Et pourtant, ils s'arrêtent, ils écoutent, et parfois, ils vous parlent. Il paraît qu'ils vous confient un bout de leur histoire, un mariage, un deuil, un départ, un retour. Est-ce qu'il y a une rencontre ou une histoire qui vous a marqué un peu plus qu'une autre ?
Oui, moi, franchement, paix à son âme, du coup, c'était une dame assez âgée. En gros, elle venait me voir. En fait, au départ, elle était heureuse. Elle venait me voir souvent jouer, etc. Parce que je jouais des classiques d'Edith Piaf, Charles Aznavour, etc. Elle venait me voir et en gros, elle me disait, une semaine après qu'elle ait, la première fois qu'elle m'a vue, elle vient me voir et elle me dit « Ah, mon mari commence à tomber malade. » C'était pendant des mois, cette histoire. Il commence à tomber malade, etc. Et ensuite, on a appris qu'il avait un cancer. Mmh. En fait, à chaque fois, elle venait à la gare parce que du coup, elle prenait le train pour aller voir son mari. Et en gros, tout simplement, elle me disait « joue ». Elle me disait « joue ». Et moi, je jouais juste pour lui redonner le sourire, en fait. Et ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit ça pourrait être n'importe qui de ma famille. Et je me dis, s'il y a quelqu'un qui redonne le sourire à quelqu'un de ma famille dans une situation comme ça, je me dis, il n'y a rien de mieux, quoi.
On vous a proposé une carte blanche ce matin. En gros, je vous ai dit, jouez-moi le mood du jour, comme si on était dans la gare de Grenoble, sauf que là, on est dans le studio de France Inter.
Thank you.
Ça, c'est votre interprétation bien à vous d'Amy Winehouse.
C'est ça, bah, je l'ai modifié. J'aime énormément modifier les classiques, etc. C'est un peu mon empreinte, en fait, rajouter mon empreinte.
Et ça vous vient comme ça?
Ça me vient comme ça. Bah, par exemple, cette mélodie, je l'aime énormément sur Back to Black, parce qu'une fois, j'étais à la gare, il y avait énormément de gens. C'était la première fois qu'il y avait autant de gens. Et j'avais les mains qui tremblaient un peu. Et là, je me rate sur une note, et je me rattrape sur la mélodie que je viens de faire, du coup, la deuxième, qui n'était pas du tout Back to Black, qui sera un son de mon EP.
Ah,
et j'ai décidé de peaufiner cette mélodie et de la mettre dans mon EP, en fait.
Ben oui, parce que vous grandissez en banlieue de Grenoble, sans piano à la maison, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de conservatoire. Hein. L'argent de votre passe culture, vous l'utilisez pour acheter votre tout premier clavier. Et puis, il y a ce fameux piano de la gare de Grenoble, et puis les voyageurs qui s'arrêtent et qui vous écoutent. Mais certains vous laissent un petit peu d'argent. Est-ce que ce sont eux qui vous ont aidé ou en tout cas qui vous ont motivé à produire ce premier EP, Mélancolia ?
Franchement, c'est les deux. Parce que la première fois que j'ai reçu de l'argent, c'est que j'étais posé en train de jouer. Il y avait une famille qui me demandait de jouer les musiques qu'ils voulaient, tout simplement. Et moi, j'ai joué pendant au moins une heure pour leur faire plaisir, en fait. Et là, à la fin, je me lève pour rentrer chez moi. Et là, ils viennent vers moi, ils me donnent 20 euros. Et moi, je voulais pas. Logiquement, on m'a jamais proposé ça. Et là, ils veulent. Du coup, vraiment, j'étais trop timide. Mais je leur ai dit merci, vraiment, merci beaucoup, etc. Je le prends. Et en fait, je savais que j'allais sortir mon EP, mais je savais pas par où passer. Et ces 20 euros-là m'ont aidé à acheter une carte son qui coûtait 40 euros sur le Bon Coin. Et qui m'a aidé, du coup, à financer mon EP. C'est grâce à ça que j'enregistre mon piano sur mon PC.
Incroyable.
Et ça m'a motivé parce que je dois les honorer. Ils m'ont donné 20 euros. Pour moi, c'est de l'argent, 20 euros. Il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir ça. Et je dois montrer l'exemple, quoi.
Vous m'avez parlé aussi du film 8 Mile. C'est l'histoire d'un jeune qui vient d'un milieu modeste et qui avance grâce à son art. Malgré tout ce qui vous arrive très très vite, en effet, en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, vous dites que votre plus grande peur, c'est de ne pas réussir. Mais ça voudrait dire quoi réussir pour vous, Aziz ?
Réussir, c'est pour moi, en quelques mots, c'est juste transmettre des émotions à des millions de personnes. Si j'arrive à le faire...
C'est votre mission dans la vie.
Moi, c'est ma mission. Même si, vraiment, je m'en fous d'être connu et tout. Hein. Je veux juste transmettre des émotions à des millions de gens, c'est tout. Si j'ai réussi à faire ça, j'arrive à transmettre des émotions à des gens qui habitent à Cuba, j'ai gagné.
Allez ! S'il y a des auditeurs à Cuba qui peuvent nous envoyer un petit message, ce serait super. Cet EP, il s'appelle Mélancolia. Et là, vous allez nous jouer un titre qui s'appelle Osmanian. Quand vous avez composé ce morceau, qu'est-ce que vous aviez comme image en tête ?
En fait, mon cœur, il penchait énormément vers l'architecture haussmannienne. J'ai aimé énormément ça. Je me suis dit, mais pourquoi pas écrire une musique ? Et une fois, je me suis posé sur mon piano la nuit, etc. Je commençais à composer. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'en 30 minutes, j'ai réussi à transmettre... En fait, j'ai pas de mots, du coup, pour ces émotions.
Ouais.
Et du coup, j'ai réussi à le transmettre en mélodie. Si vous voulez savoir ce que je ressens pour l'architecture, vous devez écouter la musique. Du coup, c'est ça, mon émotion, en fait. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... Vous voyez ?
Alors, le studio de France Inter est tout à vous, Aziz Hamadi. Alors, ça se passe le 13 février. Cet EP, il s'appelle Mélancolia. Et ce titre s'appelle Osmanian. Vous pouvez dès maintenant le streamer. Aziz Hamadi, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous.
Merci.
À bientôt.
Et merci, Daphné Burki. C'est la fin de la grande matinale.